VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec et Eric Magnirakiza au micro. Bienvenue à cette édition du mercredi 20 janvier 2016. À la une ce soir.
Arrestation en Guinée du djihadiste mauritanien qui s'était évadé de la prison de Nouakchott. La cavale de Salek Ould Cheikh n'aura duré que 3 semaines.
Dans le centre du Mali, 3 gendarmes ont été abattus hier par des terroristes présumés.
Un candidat à la présidentielle au Niger est attendu à Ouagadougou dans le cadre de l'enquête sur l'attaque contre l'hôtel Splendid vendredi dernier.
L'Afrique du Sud subit la pire sécheresse depuis 112 ans.
Au moins 21 morts dans une attaque contre une université au Pakistan. Les talibans revendiquent.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Condamné à mort en 2011 pour action terroriste et évadé de Nouakchott depuis le 31 décembre, Salek Ould Cheikh a été arrêté en Guinée après avoir franchi la frontière en provenance de Guinée-Bissau. Joint par Nicolas Pineau, Mamadou Djoulde Diallo, correspondant de guinematin.com à Bokeh, explique que l'arrestation s'est produite mardi soir à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bokeh en Guinée.
Hier, dans les environs de 18h, nous avons été à la gendarmerie de Bokeh. Les 3 arrêtés étaient déjà mis à la disposition de la gendarmerie de Bokeh. C'est des gens qui sont sortis de prison à Nouakchott, en Mauritanie, dans la capitale mauritanienne. Donc, ils ont traversé maintenant la frontière pour Bokeh. Ils les ont arrêtés. Pendant cette fouille, il y avait un qui avait son pistolet 5 mm dans son caleçon. Il a fait sortir ça et il a tiré 3 coups sur le commandant qui était en train de fouiller. Le consul de Mauritanie en Guinée-Bissau est venu la nuit. Il est arrivé à Bokeh à 3h du matin et il a confirmé, il a insisté et persisté que les 3 sont des bandits de grand chemin. Il a appelé le président de la Mauritanie pour demander un avion. Il doit les ramener en Mauritanie à partir de l'aéroport Bessia de Conakry. À l'heure où nous sommes, les 3 ont été transférés à Conakry où ils doivent être ramenés en Mauritanie à travers cet avion.
Pour rappel, Morgane, la Mauritanie avait lancé le 7 janvier un avis de recherche contre Salek Ould Cheikh après une opération à la voiture piégée menée par Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI visant à assassiner le président Mohamed Ould Abdelaziz.
Attaque contre un poste de la gendarmerie au Mali. L'assaut qui a fait 3 morts s'est produit à Kakania, dans la région de Mopti. Les assaillants ont riposté à l'arrestation de leurs quatre compagnons par les gendarmes. Ils sont suspectés d'appartenir au FLM, Force pour la Libération du Massina. De Mopti, Mamadou Bokoum nous en dit plus.
L'insécurité persiste dans la région de Mopti avec cette attaque la nuit dernière des gendarmes en poste à Kakania. Kakania, c'est un village situé dans la commune de Dialoubé, dans le cercle de Mopti. Le bilan est lourd, 3 personnes tuées. Ils étaient au nombre de 5 gendarmes qui ont arrêté 4 suspects qui appartiendraient au Front pour la Libération du Massina FLM. 2 des gendarmes ont été choisis pour acheminer les 4 personnes arrêtées vers Mopti. Les 3 qui sont restés au poste ont été attaqués par un groupe d'hommes la nuit du mardi au mercredi. Les éléments de l'armée malienne ont tous perdu la vie dans cette attaque. Pour le moment, l'attaque n'a encore pas été revendiquée, mais tout laisse à croire que ce sont les membres du FLM. Une équipe est dépêchée très rapidement pour aller chercher le corps des disparus. À en croire quelques témoins, les assaillants sont un peu partout dans cette zone, sémant la terreur au sein de la population. Mamadou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
Attentats d'Ouagadougou ont fait le point sur l'enquête Morgane. 4 personnes ayant conversé avec les djihadistes étaient interrogées aujourd'hui. Ils ont été vus dans une vidéo de surveillance de l'hôtel Splendid. Aucun élément ne permet de dire si la conversation portait sur l'attaque. Par ailleurs, 4 Nigériens ont également été interpellés, dont un homme politique, le docteur Ad Agder Obeid, candidat à la présidentielle du 21 février au Niger, se trouvait à l'hôtel Splendid lors de l'attaque qui a fait 30 morts vendredi dans la capitale burkinabé. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, s'est exprimé sur ces interpellations.
Il y a des interpellations, il y a des personnes qui sont relâchées. Vous savez, dans ce genre de situation, on prend presque tout le monde ou tous ceux qui peuvent s'apparenter à des suspects. Et puis, au fur et à mesure, on vérifie. Nous-mêmes, nous sommes intervenus dans certains cas parce qu'on a été saisis par des autorités d'autres pays et des gens qui étaient en mission et donc qui ne pouvaient rien avoir avec cette situation. Mais on ne veut pas non plus s'interférer dans l'enquête.
C'est le cas du candidat à la présidentielle nigérienne.
Le cas de l'homme politique nigérien, oui, nous avons été saisis par cette situation et nous avons donné quelques indications aux enquêteurs. Mais vous savez, l'enquête a ses exigences et le gouvernement ne veut pas vraiment interférer dans les procédures. Mais on a juste souligné qu'il s'agit de telles personnalités et il faut déjà en tenir compte en matière des droits de l'homme.
L'AFP signale aussi qu'une quinzaine de membres de la rébellion Touareg du MNLA ont été interpellés.
Le ton monte entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au cœur de la polémique, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, visé par un mandat d'arrêt burkinabé dans le cadre du coup d'État raté du 17 septembre. L'Assemblée nationale ivoirienne estime qu'il s'agit d'une attitude inamicale qui bafoue l'immunité parlementaire de son président. Les législateurs ivoiriens exigent donc le retrait du mandat.
Et dialogue inter-burundais, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU sont partis aujourd'hui de New York pour au Bujumbura. Ils vont tenter de persuader le gouvernement d'ouvrir un dialogue avec l'opposition et d'accepter le déploiement d'une force de l'Union africaine. C'est la deuxième visite des 15 ambassadeurs en moins d'un an. Il faut dire que le pays est au bord de la guerre civile. Les attaques à la grenade et les cadavres trouvés dans la rue au petit matin sont des symptômes quasi quotidiens et beaucoup redoutent un génocide.
En République démocratique du Congo, le président du G7, Charles Mwando Msiba, a été débarqué d'un avion à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il s'apprêtait à prendre place en partance pour Kalemi. Pierre Lumbi, un autre membre du G7, condamne ces atteintes aux droits et libertés. Il y voit une violation de la Constitution. Il demande au président Joseph Kabila de faire cesser les excès des services de l'ordre et de mettre fin à la dérive répressive. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La constitution de la RDC et son article 109 stipulent ce qui suit. Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale continue en son article 94, alinéa 2, est encore plus explicite. Aucune mesure, qu'elle soit du bureau de l'Assemblée nationale ou de toute autre autorité, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de circulation du député. Bien plus, ce règlement fait par ailleurs obligation à chaque député de séjourner pendant au moins un mois au cours des vacances parlementaires dans sa circonscription. 5. C'est pourquoi le G7 dénonce l'incivisme et l'arbitraire dont le président de l'UNADEF, président en exercice du G7, et ses collaborateurs ont été victimes à Lubumbashi. Le G7 demande au président de la République et au gouvernement, une fois de plus, de faire cesser les excès de tous les services d'ordre sur lesquels ils sont présumés exercer l'autorité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, attaque contre une université au Pakistan. Au moins 21 personnes ont été tuées et plus de 30 autres ont été blessées dans l'assaut revendiqué par les talibans. Le point avec Nanit Talani.
Cette attaque, aussitôt revendiquée par une faction talibane pakistanaise, intervient un an après un massacre dans une école de la même région. 4 hommes, armés de fusils d'assaut et de grenades, ont profité de l'épais brouillard qui enveloppait l'université de Bachakan à Shahrsada pour escalader un mur et lancer leur assaut sur le campus. Des témoins ont fait état de tirs et de deux fortes explosions, tandis que des dizaines d'étudiants paniqués fuyaient les lieux. Alertés, les forces de l'ordre ont aussitôt bouclé la zone avec des blindés et hélicoptères. Les opérations ont été déclarées terminées vers la mi-journée. Dans l'une des résidences universitaires, impact de balle sur les murs, mares de sang et portes défoncées témoignaient de la violence de l'attaque. Les assaillants sont morts, deux d'entre eux étaient des adolescents et deux autres avaient une vingtaine d'années. Ils portaient des kalachnikovs et des grenades, mais n'avaient pas de ceinture d'explosifs.
En Afghanistan, un attentat suicide à la voiture piégée a fait plusieurs victimes près de l'ambassade de Russie à Kaboul. Le ministère de l'Intérieur n'a pas donné de précision, et a dit ignorer quelle était la cible de l'attentat. Cette nouvelle attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.
Et le forum de Davos a débuté aujourd'hui en Suisse. Quelques 2500 participants, dont une cinquantaine de chefs d'État, participe au 46e Forum économique mondial. Au cœur des préoccupations de cette année, la croissance mondiale qui menace de dérailler, l'économie chinoise qui bat de l'aile, la crise migratoire et les attentats quasi quotidiens à travers le monde.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le Soudan du Sud serait sur le point de suspendre sa production de pétrole brut, dont il tire pourtant l'essentiel de ses recettes, selon le site internet Soudan Tribune. Le journal révèle que le ministre du Pétrole et des Mines sud-soudanais a estimé que l'arrêt de la production de brut était inévitable à court terme, faute d'accord avec Khartoum sur une réduction des redevances. Le Soudan du Sud a hérité de 75% des réserves pétrolières du Soudan pré-sécession depuis son indépendance, proclamée en 2011. Mais enclavé, il continue de dépendre des infrastructures soudanaises pour l'exportation. Les investissements chinois à l'étranger ont atteint en 2015 118 milliards de dollars, un chiffre record, mais inférieur aux investissements directs étrangers, aux IDE, qui se sont établis à 126,3 milliards de dollars. Les entreprises chinoises ont besoin de s'étendre hors des frontières chinoises. C'est ainsi que près de 600 fusions-acquisitions ont été menées l'année dernière pour un montant total de 40,1 milliards de dollars. La Chine encore, qui planche sur un accord de libre-échange avec les monarchies pétrolières du Conseil de coopération du Golfe. L'accord est annoncé pour avant la fin de l'année 2016. Les travaux de transformation de la baie de Cocody à Abidjan ont commencé pour un coût total compris entre 100 et 200 milliards de francs CFA. La première phase, fruit d'une coopération ivoiro-marocaine, est prévue pour 9 mois et coûtera 11 milliards de francs CFA. Elle est financée en partie par un prêt de 10 milliards de francs CFA accordé par le groupe bancaire marocain à Tijari Wafa Bank, qui compte une filiale en Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de banque.
La Minute Éco, merci Anastasie.
Votre page sportive avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
On commence par le football. La CAN 2016, le Rwanda se qualifie chez lui, n'est-ce pas ?
Le Rwanda a battu le Gabon 2-1 mercredi à Kigali. Il se qualifie pour les quarts de finale de ce championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux. Pour les Panthères, qui ne comptent qu'un point en deux matchs, l'avenir s'assombrit nettement. La Côte d'Ivoire, qui a battu 1-0 le Maroc grâce à un pénalty.
Et qu'est-ce qui se passe avec Lionel Messi ?
L'étoile du football Lionel Messi et son père seront finalement jugés pour fraude fiscale cette année, juste avant les débuts de la sélection argentine dont il est le capitaine à la Copa América. L'attaquant du FC Barcelone, mis en examen pour 3 délits de fraude fiscale depuis 2013, risque une condamnation à une peine de prison.
En cyclisme, 3e étape de la Tropicale Amissa Bongo.
Oui, c'est au Gabon. Le Français Adrien Petit s'impose à l'issue des 130 km entre Labarene et Njolé. Au général, Andrea Palini est toujours en tête. L'Érythréen Tesfon Okumariam est 3e. Demain, place à la 4e étape entre Oyem et Ambam.
Dopage de l'aide pour la Russie.
Des experts britanniques assisteront les autorités de l'athlétisme russe, menacées d'expulsion des Jeux Olympiques de Rio après les révélations de dopage. Et ce, afin de mettre en place des programmes de contrôle efficaces. C'est ce qu'a annoncé l'agence antidopage britannique.
Tennis Open d'Australie.
Le 2e tour chez les hommes, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui bat le français Quentin Alice en 3-7, 6-1, 6-2, 7-6. Roger Federer qui domine Alexandre Dolgopolov, l'ukrainien, 6-3, 7-5, 7-6. Et chez les femmes, Serena Williams qui bat Xue Xiei en 6-1, 6-2. Qualification également de Maria Sharapova.
Et enfin Nico, le championnat de basketball nord-américain, la NBA.
Ouais, la victoire d'Oklahoma City contre Denver, 110 à 104. A noter également le nouveau succès de la Nouvelle-Orléans contre Minnesota, 114-99. Enfin la défaite de Miami contre Milwaukee, 79 à 91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Eric Menirakis en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Burkina Faso.
Oui, Morgane, après les attaques de vendredi qui ont fait 30 morts à Ouagadougou, un homme politique nigérien est entendu par les enquêteurs. Ad Djambéide est aussi candidat à la présidentielle du 21 février au Niger. Ses militants refusent croire à son interpellation et encore moins son arrestation. Idriss Fall a joint à Niamey son directeur de campagne, Seydou Abdou Disson.
On ne parle pas de l'interpellation, vraiment, nous ne voyons pas ça en ce sens-là. Vous savez qu'après les événements de Ouarala, il était à l'hôtel. Suite à ça, il a eu certains éclaircissements. Donc c'est par rapport à ces éclaircissements qui sont toujours au il est à l'hôtel même.
Et il y avait d'autres qui étaient à l'hôtel et qui n'ont pas été arrêtés ni interpellés.
Vous savez que nous-mêmes, nous sommes... Le docteur même est victime parce qu'il y a son véhicule qui est incendié dans les événements-là.
Mais apparemment, dans certaines vidéos, on l'aurait vu en train de parler aux futurs assaillants.
Vraiment, ça, je viens d'avoir l'information. Je n'ai aucune idée là-dessus, en vérité. Ce que je sais, que très bientôt, le docteur va nous rejoindre ici. Et vraiment, vous aurez l'entente pour vous expliquer tout cela en détail.
Comme il est docteur, qu'est-ce qui s'est passé pour lui en tant que médecin après l'attaque?
Tout juste après l'attaque, il y a même la télévision Burkina Info TV qui l'a même remercié en bas parce qu'en tant que médecin, il a l'instinct de médecin qu'il a pris et il a vraiment sauvé des blessés.
Et vous espérez que c'est seulement pour peut-être des éclaircissements sur quel rôle il a pu jouer?
Oui, sûrement. Nous sommes vraiment en lien direct avec les autorités compétentes du Niger et du Burkina afin que les éclaircissements puissent être accélérés pour qu'ils puissent regagner le Niger.
Qu'est-ce qu'il était parti faire à Ouagadougou?
Dans le cadre des campagnes préélectorales pour pouvoir rencontrer des Nigériens et en même temps des autorités. Pour nous savoir avec les campagnes qui viennent, il faut nouer des relations avec les pays voisins. C'est comme il a l'habitude même de le faire tout récemment au Ghana, parce que notre parti, c'est un parti qui prône le panafricanisme et le mouvement démocratique pour le renouveau. Nous sommes un parti révolutionnaire de façon pacifique. Et c'est pourquoi même au Burkina, vous savez que le feu Thomas Sankara est révolutionnaire. Et c'est dans ce cadre qu'on est parti prendre des conseils. Comment est-ce qu'on peut mener cette génération à prendre conscience pour qu'ils puissent voter pour nous?
Adé Ag Roubaïd est un Touareg.
Effectivement, je confirme. Notre parti, ce n'est pas dû à la peau. Nous, c'est l'idée. C'est ce qui sort de la bouche des gens et des actes que les gens posent. Par exemple, l'acte qu'il a posé en tant que Touareg au niveau de l'hôtel, ce n'est pas des gens de peau, de couleur qui l'ont vu. C'est lui qui a fait ça. Et c'est l'instinct de médecin qui est ce qui l'a mis toujours. C'est pourquoi vraiment il voulait amener une différence par rapport à notre idéologie.
Et vous pensez qu'il pourra revenir rapidement à Niamey pour battre campagne en vue des élections du 21 février?
Inch'Allah, il sera au Niger pour battre campagne pour les élections du 21 février. Très bientôt même.
Seydou Abdou Disso, directeur de campagne du candidat Ad Djambéide au Niger.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la récente attaque djihadiste au Burkina Faso, mais aussi plus largement sur la menace terroriste devenue omniprésente en Afrique. Que doivent faire les pays africains pour enrayer la menace et contrecarrer les tentatives de déstabilisation par les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Les islamistes de Boko Haram continuent d'attaquer les écoles, les marchés, les églises et les mosquées dans l'extrême nord du Cameroun. Face à cette situation, musulmans et chrétiens camerounais ont décidé de protéger mutuellement leurs lieux de culte. Voici un reportage de notre correspondant Mokedwin Kinzeka, présenté par John Lindon.
C'est l'heure de la prière à la mosquée centrale de Mosoko, localité camerounaise près de la frontière nigériane. Les fidèles sont réunis à l'intérieur tandis qu'un groupe local d'autodéfense monte la garde, interdisant l'accès des lieux à tout inconnu. Parmi les vigiles, Jacques Mabali, âgé de 55 ans et membre de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun. Il dit avoir répondu à l'appel de sa hiérarchie religieuse.
C'est un acte social et c'est très bien. Ça, c'est pour défendre son pays, c'est pour défendre l'humanité, surtout le peuple camerounais qui n'a pas vécu cette situation pareille depuis un certain temps.
Ibrahim Mokhtar, jeune musulman de Mosoko, explique que ses co-religionnaires et lui protègent les églises.
En tant que fidèle, je fais la prière que Dieu nous protège dans cette histoire-là. Et ça nous inquiète trop. Les chrétiens et les musulmans, ce sont des frères. Parce que je peux être musulman et mon frère est chrétien. Nous faisons beaucoup de prières que Dieu nous garde seulement l'histoire si c'est fini. C'est ça notre souhait.
Les groupes d'autodéfense ont été mis sur pied l'année dernière pour assister le gouvernement camerounais dans la lutte contre Boko Haram, lorsque les insurgés nigériens ont commencé à utiliser des femmes kamikazes. Le Cameroun compte 23,7 millions d'habitants, dont 40% de chrétiens, 20% de musulmans et 40% d'adeptes de religions traditionnelles. Midjiwaya Bakari, gouverneur de l'extrême nord, se félicite de la collaboration entre musulmans et chrétiens de sa région dans la protection du pays.
Nous l'avons vu et nous avons applaudi à deux mains cette mesure qui a consisté pour les chrétiens à sécuriser les lieux de culte quand les musulmans prient et vice-versa. Nous avons vu le dimanche passé où, pendant que les chrétiens étaient dans les églises, c'est les musulmans qui faisaient la ronde et qui montaient la garde. Et nous condamnons avec la dernière rigueur cet acte encore barbare et nous présentons aux familles si durement éprouvées les condoléances du chef de l'État.
Pour les autorités de Yaoundé, Boko Haram se rabat maintenant sur les mosquées parce que sa force de frappe a été nettement diminuée par les raids des troupes camerounaises et nigérianes contre ses bastions au Nigeria.
Au micro, Idrissa Sidoudia, dans le dialogue des religions du mercredi 20 janvier 2016, à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique, le front commun contre les islamistes de Boko Haram au Cameroun. Les chrétiens protègent les mosquées les vendredis et les musulmans font de même pour les églises les dimanches. Que pensez-vous de cette coopération entre les deux communautés? Laissez vos numéros et commentaires sur voaafrique.com.
Cap sur le Sénégal, Morgane, le président Macky Sall respecte sa promesse électorale en abandonnant le septennat au profit du quinquennat. Plusieurs autres réformes sont concernées par le projet de révision constitutionnelle. En mai prochain, le peuple sénégalais devra donc voter oui ou non. Mais avant la tenue du référendum, le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale devront se prononcer sur le texte. De Dakar, la correspondance de Sorana Natambay.
Tout a commencé lors de la campagne électorale de 2012. Le candidat Macky Sall avait promis de réduire la durée du mandat présidentiel. Trois années plus tard, cette promesse le rattrape. Le débat fait rage. Pour le constitutionnaliste Babacar Gueye, le chef de l'État n'est pas tenu de s'y conformer.
Les promesses ou les engagements d'un candidat à la présidence n'ont aucune valeur juridique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président de la République décidait de ne pas respecter son engagement de réduire la durée du mandat du président de la République et de la porter de 7 à 5 ans, il ne commettrait aucun crime ni aucun délit.
À la surprise générale, le 17 janvier dernier, Macky Sall fait fi de la volonté de certains de ses alliés et propose un projet de révision constitutionnelle, un texte qui devrait être soumis au peuple par voie référendaire en mai prochain. Le document est envoyé aux médias et cela provoque des grincements dedans du côté des alliés. Jean-Paul Diaz, président du parti BCG.
Un document comme ça doit nous parvenir par le ministère de l'Intérieur, pas par la presse. Et je regrette, ce travail n'est pas le fruit d'une concertation, parce que tout ce qui a été dit à la CNRI ne nous lie pas, nous, partis politiques.
Le porte-parole du gouvernement, lui, demande de respecter le choix du chef de l'État, Seydou Gueye.
Le président Macky Sall a fait quelque chose d'inédit et d'exceptionnel. On n'a jamais vu au monde un président accepter de réduire son mandat parce qu'il sait que le pays en a besoin. Avec 15 modifications structurantes, elle deviendra une constitution impersonnelle.
Sur le fond, Jean-Paul Diaz et beaucoup de ses compagnons ne veulent pas des réformes.
Nous ne sommes pas d'accord pour que des candidats candidature indépendante soit autorisée lors des élections locales. Nous ne sommes pas d'accord non plus pour que le nombre de membres du Conseil constitutionnel qui doit passer de 5 à 7 voit les deux membres supplémentaires désignés par le président de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas d'accord sur la réduction du mandat. C'est tout à fait illégal puisqu'il avait prêté serment de respecter la Constitution, donc de respecter un mandat de 7 ans.
Bien évidemment, du côté de l'opposition également, le procédé dérange. Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais.
Je ne suis pas certain que c'est le président de la République qui a publié un projet de révision constitutionnelle. Si c'était le cas, j'aurais vu un décret de publication ou à la limite une saisine des organes prévus dans ce sens par la Constitution.
Parmi les modifications, la limitation d'âge à 75 ans pour tout candidat à la présidentielle en quinquennat, être exclusivement de nationalité sénégalaise, entre autres. Ces nouvelles dispositions, si elles venaient à être adoptées, vont exclure d'office des candidats. Par exemple, Karim Wade, le fils de l'ancien président, emprisonné depuis près de 2 ans et qui bénéficie d'une double nationalité. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la pire sécheresse depuis 112 ans a été enregistrée par les services météorologiques. Des températures anormalement élevées et des pluies plus que faibles en 2015. Un phénomène qui concerne plusieurs pays de la région de l'Afrique australe et qui a de graves répercussions sur le secteur de l'agriculture. Maëlys Segel a joint Guillaume Fury, conseiller pour les affaires agricoles de l'ambassade de France en Afrique du Sud.
Les données qui ont été publiées font état d'une sécheresse exceptionnelle en Afrique du Sud, mais elles touchent également l'ensemble de la région Afrique australe, c'est-à-dire des pays comme la Zambie, comme le Malawi, comme le Botswana, comme le Zimbabwe, du fait du phénomène El Niño qui est d'une intensité particulière cette année. Ça se traduit généralement en Afrique australe par une sécheresse marquée, un retard dans la saison des pluies et un caractère très aléatoire au niveau géographique. Donc ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va y avoir une baisse extrêmement forte de la production agricole. La plus emblématique est celle qui concerne le maïs, qui est la principale céréale cultivée en Afrique du Sud. Selon les dernières statistiques, la production serait inférieure de 50% à la moyenne, ce qui est vraiment extrêmement faible. Et cela est dû au fait que de nombreux agriculteurs en fait, n'ont pas été en capacité de semer, tout simplement, puisque les précipitations étaient vraiment trop faibles. Et donc de nombreux agriculteurs vont avoir des graves problèmes de trésorerie. C'est une vraie problématique pour l'avenir du secteur agricole sud-africain.
Et donc, quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre cette sécheresse?
Il y a 9 provinces en Afrique du Sud. Il y a 5 de ces provinces qui ont été déclarées par l'État en situation de sécheresse sinistrée, ce qui a permis de mettre en place des mesures exceptionnelles, notamment de restriction des usages de l'eau et également de réallouer certains crédits en direction des exploitations les plus fragiles. Ces crédits étaient largement insuffisants par rapport aux enjeux. Et dans ce contexte, et face à l'aggravation de la crise, on a eu la semaine dernière le département de l'agriculture et le ministère du budget qui ont annoncé une enveloppe exceptionnelle de 450 millions de rands, soit à peu près 25 millions d'euros, pour venir en aide au secteur agricole. Donc on a déjà changé de dimension. Ça va permettre notamment de venir en aide aux éleveurs sous la forme de distribution d'eau pour les animaux et de fourrage, puisque il n'y a eu quasiment aucune production fourragère en Afrique du Sud cette année. Les besoins totaux pour que le secteur agricole puisse se remettre de cette sécheresse sont vraiment d'une autre dimension, puisqu'il évalue entre 1,5 et 2 milliards de rands, soit à peu près une centaine de millions d'euros.
Guillaume Fury, joint à Pretoria.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la réalisation, Georges et Léonard Sagnot. À la console, Lopez. Présentation, Morgane Guiriec et Eric Manilakidze.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook où vos questions et commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez aussi partager vos photos et vidéos. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.